Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Ici Émile de Distorsion. Petit avertissement, l'épisode d'aujourd'hui concerne un sujet très délicat. Pour en savoir plus, référez-vous à la description de l'épisode.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
The tragic story of a teenage relationship that ended with a young man taking his own life and a young woman going to prison. Her text messages and phone calls encouraging him to commit suicide and the debate over whether words can kill.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En juillet 2014, les proches de Conrad Roy, 18 ans, sont sans nouvelles de lui et sont très inquiets.
Suite à un avis de recherche le matin du 13 juillet, il est finalement retrouvé mort le jour même dans son camion
sous des apparences de suicide.
Après avoir fouillé les traces numériques qu'il a laissées derrière lui, les enquêteurs constatent que son destin semble avoir été détourné par une certaine Michelle Carter, qui devient une personne d'intérêt.
Jusqu'à quel point une personne peut être jugée coupable du suicide d'un proche? Suivez-nous dans cette histoire où se mélangent éthique, technologie, amour et mort. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien, comme à l'habitude. Ce soir, on a une histoire assez passionnante qui nous a déjà été suggérée par certains auditeurs. Donc, on a hâte de vous en parler.
Oui, oui.
Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on boit ce soir déjà?
Ce soir, on boit une bière sans alcool, mon cher Émile.
Ça arrive des fois qu'on boit des bières sans alcool.
Ça fait du bien au système aussi.
Oui, vous savez, à Distorsion, on aime bien la bière, mais on fait la promotion d'une consommation modérée et saine.
Oui, exactement. On prône les bonnes habitudes de vie.
Bien sûr.
Et c'est de l'entreprise Loop. Loop, je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est une entreprise québécoise que je respecte beaucoup.
Oui.
Parce qu'eux, à la base, ils ne faisaient pas des bières sans alcool, ils faisaient des jus, mais à base d'aliments qui ont été récupérés dans les épiceries et tout ça, là, les aliments un peu moins frais, les fruits et légumes. Donc, eux, ils font une loop, donc une boucle hein, sur... dans le fond, sur les produits pour éviter les déchets.
Exact.
Et c'est une bière qui est à la lime au citron. Et dans le fond, elle s'appelle Lime Lemon Sour. Et elle a 0.5 d'alcool. Elle est excellente. Donc, on vous la recommande.
Absolument. On a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous provient de Pierre-Yves Desjardins, sans doute un de nos seuls auditeurs du Nunavut. Il nous dit « Écoutez jusqu'au Nunavut, vous m'aidez à passer au travers mes runs loin de ma famille, parce que je crois qu'il est déneigeur,
oui,
en fait. »
Oui, oui, oui. Ceux qui l'ont peut-être pas vu sur notre compte Instagram, elle est là.
Oui, la vidéo.
On voit la vidéo de Pierre-Yves, justement, qui écoute l'intro de Distorsion pendant qu'il déneige. C'est assez rigolo à voir.
Donc, shout-out à toi, Pierre-Yves.
Aussi, si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et aussi un accès à nos after shows, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. C'est au patreon.com/distorsion. D'ailleurs, on va avoir un after show pour cet épisode-ci et on va discuter de d'autres cas similaires ainsi que certaines mesures que les réseaux sociaux ont mis en place pour empêcher les histoires un peu comme on va vous parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez tout ça, on a deux forfaits très intéressants sur notre page Patreon. Une belle communauté aussi, très sympathique de membres. Et sur ça, mon cher Seb, sommes-nous prêts à se plonger dans l'histoire de Michelle Carter?
Oui, mais avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que si vous avez manqué la vente du Black Friday et Cyber Monday de chez Polysleep, pas de souci, on a ce qu'il faut.
Un bon matelas, c'est tellement important. On se réveille mieux reposé, sans douleur, le sommeil est de meilleure qualité et on est de bonne humeur au réveil. Même moi, j'ai hâte d'aller me coucher tellement je suis bien dans mon matelas Polysleep. Même que si c'est pas encore fait, là, je vous conseille de passer au format king. Dans cette commandite, Polysleep nous donne accès à un rabais exceptionnel et complètement exclusif aux distordus.
Adieu les douleurs musculaires, les allergies et l'apnée du sommeil, le tout grâce à des produits faits ici, chez nous, au Québec.
Rendez-vous au polysleep.ca et utilisez le code promo DIST25, D-I-S-T-25, pour obtenir 25% de rabais sur tous les produits du site polysleep.ca. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, monsieur!
C'est parti! C'est parti.
Oh yeah! Le cas d'aujourd'hui est assez particulier, Émile, parce qu'on va beaucoup parler de l'imputabilité d'un texto, de la force, la puissance d'un acte qui peut être fait par la parole, et même là, la parole numérique par texto, jusqu'à quel point ça peut avoir un impact, comment au niveau légal, ça peut être reconnu comme un geste pur et dur. Comme si, par exemple, je te pousse devant un train, pendant qu'il marche, il y a des témoins, je risque d'être accusé, c'est clair. C'est clair que je t'ai poussé devant. Mais si, par exemple, si toi, tu te jettes devant parce que, justement, je t'ai texté juste avant, t'es un salaud, tu mérites pas de vivre. Mm-hmm. Et là, c'est là que ça devient plus compliqué à prouver, justement, jusqu'où va l'intention d'un texto versus l'action que la personne qui le reçoit fait. Puis tout le cas d'aujourd'hui va vraiment tourner autour de ça parce que c'est très légal, en fait, parce que tout le côté moral, on s'entend, là, tu sais, vous allez voir, c'est moralement inacceptable, là, tout ce que cette Michelle Carter-là a fait. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau légal, faut se poser des questions, puis ça n'a jamais été adressé à tous les cas qu'on a, là, la technologie, tu vois comment que ça, c'est difficile avec le droit. Les lois, c'est long avant que ça s'ajuste, puis on va en voir encore toutes sortes de cas du genre.
Oui, puis c'est un débat qui est bien réel parce qu'on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux, entre autres, que ce soit dans les commentaires. Il y a certains commentaires qui peuvent être, par exemple, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des menaces de mort par les réseaux sociaux, des élus, des journalistes, des vedettes des gens qui ont été mis un peu sur la table d'exécution publique. Oui. Puis, il y a vraiment des réels débats autour de ça. Est-ce que tu peux vraiment accuser quelqu'un de menace de mort, même si la personne n'a pas encore passé à l'acte, du moins? Et toutes les traces numériques autour de ça contribuent à monter une preuve. Donc, c'est un peu un signe que les temps changent à quelque part. C'est pour ça, entre autres, aussi qu'il y a plein de médias qui désactivent les commentaires.
Oui, de plus en plus.
Oui, de plus en plus. On en entend toujours parler. Ça sort encore à chaque semaine. Mais dans le cas précis d'aujourd'hui, on ne parle pas évidemment d'un grand média. On parle de textos échangés entre deux personnes. Oui. Mais quand même, il semble avoir une zone grise puis un certain besoin de jurisprudence autour de ça.
Oui, exactement.
Est-ce que tu peux pousser quelqu'un vers commettre un crime? Est-ce que tu peux pousser quelqu'un vers mettre fin à sa vie? Qu'est-ce que ça implique, tout ça, justement, le pouvoir d'un texto? Parce que on est conscient que c'est bien juste des mots, mais lorsqu'il y a une relation qui est forte entre deux personnes, c'est beaucoup plus que ça. C'est du... on tombe dans le gaslighting, dans la manipulation, des phénomènes comme ça. Puis c'est très présent et très présent auprès des jeunes aussi.
Oui, exact. Je dirais même que, même dans le cas-ci, on dirait je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est une forme de violence conjugale. Vu que c'est un couple, techniquement. Là. Donc, on en a assez discuté. Je pense qu'on va se lancer dans l'histoire de Michelle Carter et de Conrad Roy.
Yes, allons-y.
Nous sommes tôt le matin du 13 juillet 2014 à Mattapoisett, qui est dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Conrad Roy III, 18 ans, est porté disparu par sa mère Lynn Roy. Elle n'a aucune nouvelle de lui depuis hier soir et il ne répond pas à ses textos et appels, ce qui est anormal de sa part. De plus, son camion n'est pas là non plus dans l'entrée. La première fois qu'elle s'est réveillée vers 1h du matin, elle n'avait toujours pas de nouvelles, mais elle n'était pas trop inquiète car parfois, il rentrait tard, mais il rentrait toujours à la maison. Il finissait toujours par coucher, là. Il n'y avait pas d'inquiétude.
Ouais.
Cependant, lors de son réveil à 5h30 le matin, le camion de Conrad n'était toujours pas là. Avant de quitter la veille, il l'avait pourtant avisé comme à l'habitude où il s'en allait pour la soirée. Elle a alors pris sa voiture pour se rendre chez l'ami de Conrad pour finalement constater que son camion Ford n'était toujours pas là non plus. Elle se rend chez son père, le père de Conrad, pas là non plus. C'est à ce moment qu'elle panique et qu'elle appelle les autorités à 10h04 le matin. Elle est aussi très inquiète étant donné que Conrad a un historique de tentative de suicide et prend des antidépresseurs. Il lutte depuis son jeune âge contre l'anxiété sociale et la dépression pour lesquelles il a consulté plusieurs thérapeutes au fil du temps. Il suit même actuellement une thérapie cognitivo-comportementale depuis quelques semaines pour l'aider à aller mieux. De plus, il a été hospitalisé pour une overdose d'acétaminophène, en Europe c'est le paracétamol, à l'âge de 17 ans en 2012, parce qu'il a été vraiment abattu après le divorce de ses parents là, la même année.
Je savais pas que c'était possible, une overdose d'acétaminophène.
Ben, je suis resté bête, moi aussi, faut que t'en prennes. J'ai pas trouvé la quantité, mais je me suis demandé jusqu'à quel point que tu devais en prendre. Je me demande même si tu peux mourir, peut-être faire une overdose dans le sens que ton système en peut plus, mais je sais pas jusqu'à quel point ça peut te tuer.
Peut-être une question de pression sanguine
oui,
aussi.
Oui, oui, oui. Oui, sûrement. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui aurait la réponse, ça pourrait être apprécié. Durant sa tentative, il discutait avec une fille qu'il avait rencontrée dans un groupe de soutien. On ne sait pas sous quel format, là, soit texto ou par téléphone. Et elle a eu heureusement le bon réflexe là, d'appeler la police qui lui a permis de lui sauver la vie. Là. Il discutait avec elle de ses problèmes et de son goût de son désir en fait de mettre fin à ses jours. Il est à noter aussi qu'il prend l'antidépresseur citalopram, qui est également connu sous le nom de Celexa depuis un certain temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce médicament est très controversé. Aux États-Unis, par exemple, le citalopram comporte un avertissement indiquant qu'il pourrait augmenter les pensées et les comportements suicidaires, en fait, chez les moins de 24 ans. Puis ça aussi, vous allez voir, on va en parler là, de l'impact des médicaments de toutes sortes sur le cerveau des jeunes enfants. Il n'y a pas tant d'études non plus à long terme sur ces impacts-là. Puis de plus en plus, on dirait qu'on voit, du moins en cours et tout ça, des spécialistes parler des dommages que certains médicaments peuvent faire.
Bien, déjà, la prise d'antidépresseurs, dans ce cas-ci, il a 17 ans moment de cet épisode-là, là, en 2012, c'est de plus en plus présent dans les écoles secondaires aussi, ce qui est, c'est une bonne chose que les ados consultent, mais moi aussi, on dirait au niveau de la prise de médicaments à ces âges-là, je suis ambigu.
Oui, exactement, parce que souviens-toi, quand j'étais au secondaire, c'est peut-être pas des choses qu'on parlait, mais j'ai aucun souvenir d'un ami ou une amie qui... Je me souviens même pas qu'on en parlait.
Oui, moi j'en avais des amis qui en prenaient aussi, puis c'est vrai que c'était tabou.
Oui, quand même.
Puis je pense qu'il y a une ouverture de plus en plus envers ça. Là, on le voit, là, on parle de plus en plus de santé mentale dans les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça, puis c'est une bonne chose à quelque part, je pense, de tenter de rendre ça moins stressant.
Oui, 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 absolument, parce qu'on le voit, là, même les athlètes professionnels là, qui sortent aussi, qui souffrent de dépression, ça devient des bons porte-parole pour les gens « normaux », entre guillemets, qui se disent « ah ben, moi j'en souffre, si une vedette en parle, ben pourquoi moi je pourrais pas en parler? » Bref, je referme cette parenthèse là-dessus. Il faut savoir aussi que Conrad travaille comme capitaine de bateau là, pour l'entreprise familiale de remorquage marin, les Tucker Roy Marine Towing and Salvage Inc. En fait, c'est vraiment... je savais même pas que ça existait. Ben, c'est logique. Là, un towing pour la mer. Mm-hmm. Donc, il travaille avec son père, son grand-père et son oncle. Ce qui est impressionnant quand même, c'est qu'il a obtenu sa licence de capitaine après avoir suivi durant 3 mois des cours du soir au Northeast Maritime Institute. Cette année-là, en 2014, là, il venait, là, ça faisait pas longtemps qu'il venait d'avoir sa licence. Lors des recherches de la part des membres de sa famille pour tenter de le trouver, ils sont aussi allés voir là, s'il n'était pas sur la mer ou sur l'eau là, avec un bateau et tout ça. Et non, il n'était pas là. Après avoir fait le tour de ses contacts et de la ville sans succès, le camion est finalement retrouvé dimanche matin, le 13 juillet 2014, dans le stationnement d'un Kmart à Fairhaven, qui est une ville qui est située à moins de 15 minutes de voiture de chez lui là, à Mattapoisett. À l'intérieur du camion, on y retrouve Conrad qui est inanimé sur le siège du conducteur. On peut y apercevoir également une pompe à essence sur le siège passager avant. Rapidement, les médics arrivent sur place, trop tard. La thèse du suicide en sex-fission au monoxyde de carbone est envisagée par les autorités. Émile, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur Conrad Roy?
Oui, absolument. Conrad Henry Roy III, est né le 12 septembre 1995 à Mattapoisett, dans le Massachusetts. Il a toujours habité cette ville-là. Puis au moment des faits, il était récemment devenu officiellement le capitaine de bateau pour l'entreprise familiale de remorqueurs dont on parlait. Et malgré son succès académique et avec les autres, c'était quelqu'un qui était assez populaire, il était parfois socialement anxieux d'aller à l'école et en classe en général. En juin 2014, un mois avant le drame, il obtient son diplôme de l'Old Rochester Regional High School, en plus d'être sur le tableau d'honneur qui représente les étudiants avec les notes les plus élevées à Mattapoisett. Au secondaire, il pratiquait la course à pied, le baseball et l'aviron. C'était quelqu'un qui était assez, il avait des bonnes habiletés sportives.
Oui, oui.
Puis ça semble être quelqu'un qui était très intéressé par la mer et les sports nautiques. Après l'obtention de son diplôme, il devait aller à l'Université d'État de Fitchburg pour étudier l'administration des affaires, mais il a décidé de ne pas y aller parce qu'il luttait toujours contre l'anxiété sociale et la dépression. Donc, il l'avait quand même dur de ce côté-là. Donc, déjà, à l'adolescence, pour lui, ça le bloquait dans ses avancements. C'est quelque chose qu'il devait passer au travers ou du moins apprendre à vivre avec.
Oui, oui.
Pour conclure, Conrad a été aussi frappé physiquement par son père et agressé verbalement par son grand-père lors de son enfance, ce qui l'aurait beaucoup marqué. Puis c'est des choses qui contribuent pas non plus à ton bagage lorsque tu fais de l'anxiété et que tu peux être victime de dépression.
Ah oui, absolument, ça a un impact, il y a une prévalence directe, là, je te dirais.
Ah, tout à fait, donc pauvre lui.
On retourne à l'enquête. Merci, Émile. Étant donné les circonstances de la situation, une enquête est ouverte par les autorités de Fairhaven, le lieu du drame. Là. Conrad a laissé un journal intime avec plusieurs notes de suicide s'adressant à sa famille. Il a également inscrit ses mots de passe d'ordinateur et son iPhone. On voit qu'il avait bien planifié son affaire là, quand même. Hein.
Oui, il avait pensé beaucoup.
Oui, exactement. Avec les traces numériques ainsi que physiques, Conrad laissa beaucoup d'indices aux enquêteurs pour tenter de découvrir ce qui a pu le mener à commettre l'irréparable. Il commence par explorer ses messages textes. Généralement, c'est assez révélateur là, des derniers instants de quelqu'un. Là.
Oui, toujours une des premières choses qu'on regarde.
Oui. La dernière discussion s'est déroulée avec une certaine Michelle Carter. C'est alors que les enquêteurs ouvrent une boîte de Pandore. Les derniers échanges entre les deux étaient dérangeants, très dérangeants. Là. Le 12 juillet, soit la journée même de sa mort, parce qu'il a été retrouvé le 13, mais vous allez voir, sa mort s'est plutôt déroulée le 12. Michelle Carter envoya une avalanche de messages lui demandant s'il allait se suicider ce jour-là, ignorant ses craintes et l'encourageant même à plusieurs reprises à commettre l'acte. Le tout commença le 12 juillet avec un message assez tôt le matin. À 4h07 du matin, de la part de Michelle, elle lui écrit « Conrad ». 4h18, elle lui réécrit « Es-tu là? » Il lui répond « Désolé, je suis tombé endormi. »« C'est OK. Pourquoi tu ne l'as pas fait? » Puis là, il répond « Parce que je suis tout messed up. » On dirait que j'avais de la misère à la traduire en français. Là, tu sais, je suis trop
confus,
mêlé. Oui, exactement, mélangé. Là, il y a différentes discussions pendant encore une minute.
Puis quand elle dit « Pourquoi ne l'as-tu pas encore fait? » C'est mettre fin à
ce
jour.
Oui, exactement. Merci de préciser. Parce que justement, c'est dans les discussions depuis longtemps entre les deux. Puis vous allez voir, là, c'est tellement malsain, ça n'a pas de bon sens. 4h22, elle lui dit « Tu ne dois pas y penser, tu dois juste le faire. Tu as dit que tu allais le faire. C'est comme si je ne comprenais pas pourquoi tu ne l'as pas fait. » puis lui répond « je ne comprends pas non plus ». Mais tu sais, déjà là, d'habitude, là, quand si ton chum ou ta blonde ne va pas bien, là, tu sais, on s'entend-tu que c'est pas ces mots-là que tu vas utiliser, là, tu sais, tu vérifieras pas s'il le fait ou non, et ne pas le traiter quasiment de loser, de ne pas avoir mis fin à ses jours. Là.
Ben oui, elle le diminue, en fait,
ouais, hein, exact.
Par ses textos.
Oui, c'est comme s'il la décevait en faisant ça. En tout cas. Et ça continue comme ça durant plusieurs minutes. Étant donné que le jour se lève bientôt, Conrad décide de remettre le projet au soir même et il retourne se coucher. On a un nouveau message de Michel à 9h08 le matin qui lui dit environ 5 heures plus tard, là, « Est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? » Et Conrad répond immédiatement « Oui ».
Oui, avec 4
i. Oui, exact. Là encore, c'est plus irréel. Elle lui propose de faire ça de jour parce que c'est moins suspect. Ça, versus le soir, j'arrive pas à comprendre l'argumentaire. Et qu'il n'aura pas le temps d'y penser trop là, et de changer d'idée comme hier. En fait, là, elle veut qu'il agisse maintenant et tout de suite. Elle lui dit que c'est simple et qu'il n'a qu'à mettre un moteur à gaz dans sa voiture, trouver un stationnement tranquille et c'est terminé. Il mentionne aussi s'inquiéter pour ses proches après son départ. Elle, Michel, en tant que bonne personne, le rassure en lui disant qu'elle sera là pour eux. Ça aussi, là, c'est encore tellement weird, là.
Bien sûr, ça, c'est en supposant que personne ne va jamais lire ces textos-là.
Oui, 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 ça, c'est une belle naïveté. On en reparlera plus tard, là, par rapport à ça. Durant l'après-midi, les discussions sont parfois anodines, mais toujours dérangeantes. En fin de journée, vers 17h, le plan est concocté avec Michel par texto. Il va se rendre dans le stationnement d'un centre d'achat et faire ça autour de 9h PM à la fermeture des magasins. Comme ça, il sera seul et il sera retrouvé rapidement le lendemain. Il veut comme pas faire paniquer trop sa famille. En fait, c'est une de ses raisons là, pourquoi il fait ça.
C'est assez surprenant de voir par toutes les étapes par lesquelles il passe. Vraiment, oui, il est manipulé par sa copine, mais en même temps, il réfléchit tellement que son plan prend forme au point où, je vais faire ça de jour, je veux pas qu'il y ait trop de temps avant qu'il me trouve, je veux m'assurer qu'il va y avoir quelqu'un pour mes proches. Il y a toute cette inquiétude-là qui est troublante là, du côté de Conrad. On dirait que c'est vraiment quelqu'un qui semblait avoir sa famille à cœur, tout ça, puis il semble pas prêt à mourir, non. En fait, quand on... c'est normal, il est tout jeune il s'inquiète, tout ça, c'est moins une pulsion de suicide qu'on va voir, je crois, chez d'autres victimes qui vont dire « fuck it, moi, pas d'explication, let's go, je le fais », on en connaît, j'en connais personnellement des gens qui l'ont fait comme ça, sans se soucier de ce qui se passe après, mais lui, on dirait justement que on sent que c'est pas lui qui commande d'une certaine façon.
Oui, exactement. Puis c'est vrai ce que tu dis qu'il réfléchit beaucoup. Hein. C'est quelqu'un quand même d'assez intelligent, ce qu'on peut voir par ses résultats scolaires, ses habiletés sportives. Je me demande si ça doit amplifier quasiment cette disons toute cette planification-là versus quelqu'un qui est peut-être moins organisé, tout ça, parce que justement, le fait qu'il ait laissé les mots de passe de ses téléphones, les journaux intimes, il a même écrit une lettre spécifique à Michel de suicide. Donc, comme tu dis, c'est vrai que c'est drôle, il a tout orchestré, mais c'est ça, c'est de l'aide qu'il aurait fallu. Comme quelqu'un qui appelle à 1-866 appelle, ils disent que quand tu demandes de l'aide, c'est pas nécessairement que tu veux le faire, mais tu sais que tu veux de l'aide. Ben, dis-moi, c'est pas que tu veux pas le faire, mais tu vas aller chercher quelque chose qui va t'empêcher de le faire un peu instinctivement, j'ai l'impression. Puis là, il n'y a pas ce support-là. Puis de ce qu'on comprend, il n'en parle pas beaucoup non plus avec son entourage de toutes ses pensées suicidaires. Également étrange, à la fin de cette discussion-là, en fin d'après-midi, elle lui demande s'il a effacé leur conversation. Puis il répond que oui, en fait, qu'il les a effacés, mais on le sait, comme vous et moi, que toutes les discussions sont enregistrées par les compagnies... les discussions de texte sont toujours enregistrées par les compagnies de cellulaire, de téléphone, en fait. Là. Mais ça, elle semblait l'ignorer. À 18h25, il avise qu'il est presque arrivé au centre d'achat. À 18h28, un appel entre les deux d'une durée de 43 minutes est effectué. À 19h12... un autre long appel est fait, cette fois-ci de 47 minutes est passé entre les deux. C'était le dernier appel du couple et la toute dernière communication effectuée par Conrad avec son téléphone. Et il est probablement mort pendant qu'ils étaient ensemble au téléphone. On y reviendra là, à ces appels-là là, parce qu'ils vont être hyper importants là, durant le procès. Puis comme on sait, on peut pas, les compagnies téléphoniques n'enregistrent pas les appels. Là, ça serait fou les données, mais ils ont quand même réussi à extraire par témoignage ce qu'il a pu se dire durant ces appels-là. Et vous allez voir, c'est à glacer le sang. À 20h03, quelques minutes après avoir raccroché d'avec Conrad, elle texte la sœur de celui-ci. « Hey, Camden, c'est Michelle Carter. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je sors encore avec ton frère. Ha ha! » Il ne m'a pas répondu et je commence juste à m'inquiéter un peu. « Est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu sais où il est? » C'est assez étrange. Elle sait très bien où il est. Elle lui répond qu'elle ne le sait pas, mais qu'elle va demander à sa mère. Elle lui demande également comment elle a obtenu son numéro.
Ouais.
Parce qu'ils ne se parlent pas là, habituellement. Elle répond que c'est Conrad qui lui a donné il y a quelque temps et qu'elle ne veut pas l'effrayer. Là. Elle ne veut pas la faire freaker out. Parallèlement à ça, Camden a texte sa mère Lynn pour savoir si elle a des nouvelles de Conrad. Car Michelle, que sa mère n'a rencontré qu'une seule fois en 2013 lors d'une partie de baseball de Conrad, elle aussi elle est sans nouvelles de lui, là, comme on vous disait. Sa mère est surprise de lire ce prénom, car elle n'est même pas au courant qu'ils ont une relation. Là.
OK.
C'est ça, c'était pas... Par les échanges, on a l'impression que son chum est blonde parce qu'il y a beaucoup de « I love you » qui s'échangent, mais on dirait que c'était pas à sens unique, mais pas loin, parce qu'il n'en a jamais parlé à sa famille, puis ça, ou presque... Puis ça, pour sa mère, c'était étrange de la part de son fils.
Ils étaient vraiment dans une bulle, les deux.
Ouais, exact. Fait encore plus étrange, Conrad lui a dit qu'il allait chez une autre fille ce soir-là, car il avait beaucoup d'amis de filles, selon sa mère. Donc, pour éviter les conflits, elle demande à Camden de dire qu'il est sûrement chez son père. Et sa mère va aussi texter Conrad vers 22h, sans réponse, évidemment. Et Michelle va recommencer à texter Conrad en soirée, là, après avoir parlé à sa sœur saucisse, là, c'est weird. Là. À 21h19, elle lui écrit « S'il vous plaît, réponds-moi. J'ai peur. Es-tu OK? Je t'aime. S'il vous plaît, réponds. » Mais on le sait très bien, là, elle a raccroché avec lui autour de 8h et la ligne a raccroché. Là. À 22h36, Camden, la sœur de Conrad, répond à Michelle qu'il est chez son père et qu'il dort, parce que c'est ce que sa mère lui avait dit de dire. Vers 22h38, donc 2 minutes plus tard, Michelle écrit encore à Conrad. « Tu es chez ton père, je le sais. Camden me l'a dit. Je vais t'obtenir de l'aide dès que possible, je suppose. » Un autre texte, « Je pense que tu l'as fait », avec 3 petits points. On peut remarquer ici, par les échanges entre les deux, qu'elle semble, mais en fait même pas entre les deux, là, à sens unique, qu'elle semble vouloir laisser des traces numériques de soutien. Tu sais, on dirait que les derniers textos, c'est comme pour contrebalancer, comme pour faire comme si elle s'inquiétait pour vrai,
oui,
tout en sachant qu'il est déjà mort. Vous comprendrez que dès que les enquêteurs ont lu ces troublants messages, une enquête plus approfondie a été ouverte à savoir qui est cette Michelle Carter. À première vue, elle semble être sa copine par les nombreux « je t'aime » échangés, comme je vous disais, mais quelle blonde inciterait son chum à se tuer au lieu de l'aider à s'en sortir? Avant d'aller plus loin, Emile, parle-nous donc un peu de Michelle Carter et comment ils se sont rencontrés, elle et Conrad.
Oui, Michelle Carter, elle est née le 11 août 1996, donc elle est un petit peu plus jeune, un an environ plus jeune que Conrad, et elle est née à Plainville, dans le Massachusetts. Elle est allée à l'école secondaire régionale King Philip à Wrentham. Malheureusement, elle souffre de plusieurs problèmes de santé depuis son jeune âge. Elle a développé un trouble alimentaire dès l'âge de 8 ou 9 ans. Elle s'est également automutilée en se coupant là, à l'adolescence. Il est à noter aussi qu'elle prend des médicaments contre la dépression depuis l'âge de 14 ans et qu'elle est suivie là, à ce propos. Donc, à part ça, très peu d'informations sur elle circulent. Donc, c'est quelqu'un, elle aussi, qui l'a pas eu facile. Puis
non.
C'est sans doute, j'imagine, un peu là-dessus qu'ils ont connecté en ligne, elle et Conrad, un peu sur le fait que les deux souffrent de dépression puis qui ont eu certains problèmes à ce sujet-là. Donc, c'est entre autres une des raisons pour lesquelles ils se sont rapprochés là, à ce point-là.
Oui. Mais je trouvais ça bizarre. Même, tu vois que je trouvais que l'Internet ou les journalistes pas qu'il punissait Michel, mais souvent, les protagonistes, on a beaucoup plus d'infos sur leur bio, puis on dirait que sur elle, puis même partout, je voyais pas plus d'infos. C'est comme si personne ne s'intéressait tant que ça à son passé, sauf que ce qui concernait vraiment la cause. J'ai trouvé ça particulier quand même.
Oui, ben peut-être par respect aussi pour la victime, aussi. Puis en même temps, je crois qu'elle était mineure au moment des faits.
Ouais, t'as raison.
Conrad aussi, c'est vrai, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a de ce côté-là, peut-être qu'ils se sont gardés une petite gêne pour pas trop fouiller là, dans le passé.
Oui, oui, ben t'as raison, parce qu'elle avait 17 ans quand elle a été arrêtée, mais c'est ça. J'en dirai pas plus.
Donc, Michelle Carter et Conrad Roy se sont rencontrés quelques années plus tôt, là, en 2012, alors qu'ils étaient tous les deux en vacances avec leurs familles respectives à Naples, en Floride. Cependant, bien qu'ils ne vivent qu'à peine une heure de voiture l'un de l'autre, ils entretiennent une relation principalement virtuelle par le biais des textos via leur téléphone. Ils ne se sont rencontrés que 5 fois au fil des 2 années de leur relation. De plus, selon l'entourage de Conrad, c'était pas clair pour eux que c'était vraiment sa copine.
Non, c'est ça.
Il y avait toujours ce flou, là. Ça semble, peut-être qu'ils se gardaient justement une petite gêne à ce niveau-là, mais ils semblaient vraiment être très connectés, très en symbiose, lui et Michel. Cependant, c'est pas une relation sur laquelle ils communiquaient à leurs proches, même leurs meilleurs amis.
Non, exact. Puis comment, moi, je trouvais ça particulier aussi, le maintien de cette relation-là, totalement virtuelle, parce qu'il habitait à une ville, à une heure de route. Là. Tu sais, une heure de route, c'est pas tant une relation à distance que ça. Là. Tu sais, oui, peut-être que tu peux pas te voir à chaque semaine, mais Conrad avait une voiture en plus. Ils ont fait le choix volontaire de presque jamais se voir.
Mais il y en a qui sont plus à l'aise comme ça. Il y en a qui sont plus à l'aise avec des relations comme ça. Hein. C'est pas la première fois qu'on en parle dans Distorsion. Il y en a plusieurs couples virtuels qui se sont jamais rencontrés ou presque dans la vraie vie.
Non, exact. Puis on dit que c'est, en plus, à cet âge-là, tu as les hormones dans le piton. Tu veux vivre des choses là, d'habitude. Quand tu as 17-18 ans, me semble que tu veux du contact humain. Vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Là, d'habitude, cette flamme-là est là. Mais je me pose la question si les deux étant sur les antidépresseurs, c'est connu que quand même ça limite les émotions d'une certaine façon. Tu sais, je ne sais pas si ça peut avoir eu un impact aussi ou c'est juste parce qu'il était confortable comme ça, tout simplement. Mais on le saura jamais, mais on dit que c'est toujours quelque chose qui me titille énormément. Hein.
On revient à notre histoire. Le 13 septembre 2014, environ 2 mois après la mort de Conrad, Michel participe à l'organisation d'un match de baseball spécial là, organisé en l'honneur de Conrad par sa ligue de baseball, qui est une ligue amateur en fait. Les profits amassés lors de cette journée sont remis à l'Alliance nationale pour la maladie mentale, ce qui est super en soi. Le problème ici, c'est que Michelle, elle a organisé cela là, dans sa ville à elle et non dans la ville de Conrad là, à Mattapoisett.
Oui.
Mais pourquoi? Oui, c'est particulier.
Ah oui.
Personne ne doit vraiment le connaître là-bas, en fait, et c'est plus difficile pour ses proches de s'y rendre. Donc, c'est une drôle de décision, parce que maintenant, c'est sûr que c'est une histoire qui est publique, mais c'est en raison des événements qu'on va dévoiler tranquillement. Mais à ce moment-là, c'est pas quelqu'un qui était connu du public, donc c'est sûr que dans une ville voisine, personne le connaissait. Donc c'est un peu, une démonstration de vertu dans le simple but de tenter de se blanchir, de redorer son blason.
Oui, puis de prendre un peu toute l'attention que ça va avoir aussi. Puis même dans une discussion texte avec une amie à propos de cet événement-là, même son amie il a dit « Mais pourquoi c'est pas dans sa ville à lui? » Tu sais, même une de ses amies qui avait 17 ans, elle-même... elle comprenait pas. Tu sais, puis elle a juste dit « Ah, ben c'est plus facile pour moi. » Mais ça, encore là, c'est pas cool.
Et le lendemain de la levée de fonds, le 14 septembre, elle envoie un texto à Conrad, mais elle sait très bien là, qu'il est décédé, en lui disant qu'elle a amassé plus de 2 500 $ lors de l'événement du match de baseball. Là. Donc, c'est la dernière fois que Michelle enverra un message à Conrad. Donc, elle semble être un peu dans le déni là, à ce moment-là. Plus il fouille les traces numériques autour de Conrad, plus les enquêteurs s'intéressent à Michelle. Et le 2 octobre, toujours en 2014, elle est finalement interrogée au poste de police de Fairhaven au sujet de la mort de Conrad.
Oui.
Les autorités interrogent Michelle et saisissent son téléphone portable pour y inspecter son contenu et les différents échanges qu'elle a eus avec Conrad, mais également avec son entourage. Lors de l'interrogatoire, on lui demande si elle lui a parlé la veille ou la journée de sa mort. Les enquêteurs, évidemment, connaissent déjà la réponse, mais la réponse de Michelle est très particulière. Elle dit alors qu'elle lui a parlé cette journée-là et que lors de leur dernière conversation, la ligne aurait raccroché. Mais elle ne s'en était pas tant souciée, là, ne sachant pas trop quoi faire. Pourtant, il est clair que la discussion tournait autour du suicide. Elle conclut que, de toute façon, il voulait le faire.
Ouais.
Donc, c'est bizarre un petit peu sa réponse.
Ouais, ouais. Puis l'enquêteur qui répond, OK. Il y a vraiment comme, tu sais,
J'en prends bonne note.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Lorsque les techniciens ont extrait les traces numériques du téléphone, ils ont constaté qu'il s'est échangé plus de 60 000 textos, photos, vidéos et messages vocaux au cours de relations. Et 60 000 textos, c'est un nombre très élevé.
Oui, c'est imaginez, là, c'est beaucoup de textos par jour pendant 2 ans, là, et différents messages, puis ça inclut aussi même les messengers, etc. Là, ils ont tout extrait, c'est tout de même assez impressionnant.
Et par la suite, c'est là qu'a débuté une enquête menant au procès.
Là, on va tomber dans le procès. Finalement, 7 mois après la mort de Conrad, le 5 février 2015, Michelle Carter est accusée d'homicide involontaire devant la cour. Elle est relâchée sous caution le lendemain avec promesse de comparaître et reçoit l'ordre de n'avoir aucun accès à Internet, autre que pour ses devoirs scolaires. Elle ne peut pas non plus accéder aux réseaux sociaux et pas de SMS, sauf avec ses parents. Il s'ensuit ensuite de nombreuses tentatives là, de la part de l'avocat de Michelle Carter de faire annuler la cause parce qu'entre autres, elle interfère avec le premier amendement qui protège la liberté d'expression. Mais c'est fou, là. Il y a tellement fait de demandes pour annuler sur toutes sortes de raisons. Là, ça a étiré les procédures, là, mon gars. Là, ça a pris des années à cause de ça. Là. Puis à chaque fois, c'était toujours rejeté par la Cour suprême. Mais il tenait toujours son bout. Là. Ça a été assez incroyable. Finalement, le 3 septembre 2015, les procureurs soutiennent que Michelle a ouvert un nouveau compte Twitter, ce qui viole les conditions de sa libération. La défense qualifiait ça de ridicule, mais ça reste que pour une personne comme ça, je comprends pas pourquoi qu'elle a fait ça. Ça n'a pas eu de sur-conséquences sur la suite, mais j'ai trouvé son geste un peu, disons, audacieux. Là.
Ben oui, c'est carrément se tirer dans le pied.
Ben
mais
oui.
Est-ce qu'on sait sur quel réseau social ils se sont rencontrés, eux?
Non, ils se sont rencontrés physiquement, en fait. C'est deux familles, en fait, qui se connaissaient. puis dans un party de Noël, c'est comme ça qu'ils se sont vus. Puis dans ce cas-là, là aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sources différentes. Là. Il y avait un YouTuber qui parlait qu'ils ont été même une partie du secondaire ensemble, mais étant donné qu'ils habitent vraiment quand même loin l'un de l'autre, entre guillemets, mm-hmm. même si c'est des écoles régionales, je doutais là, que les jeunes, à chaque jour, faisaient une heure de but, ou en tout cas. Fait que ça, je ne sais pas si ils sont vraiment connus au secondaire avant, mais la rencontre initiale, c'était vraiment dans une famille en Floride, là, comme ça. Fait qu'elle était, c'est ça qui est particulier de cette relation-là, qui est devenue carrément virtuelle, mais la rencontre, elle était physique, elle n'était pas virtuelle.
Oui. Oui, mais je pensais qu'ils s'étaient peut-être rencontrés par avant, en fait, sur un réseau social, non, avant, de se voir en physique, mais bon.
Non, même pas. Finalement, plus de 2 ans plus tard, 2 ans, là, tout ça à cause que je vous disais, là, les appels et tout ça, le 5 juin 2017, Michel renonce à son droit à un procès devant jury. Parce que ça aussi, ça aurait pu, ça peut changer les choses hein, s'il est coupable ou non. Hein, un jury, c'est pas seulement une seule personne qui décide. Je pense que c'était à son avantage aussi de refuser un jury parce qu'on s'entend que éthiquement, ce qu'elle a fait, je pense pas que ça aurait passé.
Non.
Ben, en tout cas, bref. Le 6 juin, donc le lendemain, le procès commence. Et là, le procès brosse un sombre portrait là, de deux adolescents. C'est vraiment dérangeant, qui sont perturbés sous traitement médical, mais dont la relation s'était résumée ensuite essentiellement à des échanges par texto et coup de téléphone. Au cours de son procès, les procureurs ont décrit Michelle Carter comme une femme à la recherche d'attention qui a utilisé son petit ami comme un pion dans son jeu malsain de la vie et de la mort. Et là, je cite la couronne. Selon les preuves, elle voulait jouer le rôle d'une petite amie en deuil pour obtenir la sympathie et l'attention dont elle a besoin. La couronne a fait témoigner plusieurs amis, et je les mets en guillemets, de Michel, qui, selon les photos sur les réseaux sociaux et tout ça, le Michel, là, ça semble être une personne entourée d'amis, sportive, impliquée. Mais dans la réalité, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas vraiment d'amis proches.
Non.
Et que c'est pas quelqu'un qui... elle a beaucoup de difficultés à entretenir des relations. Elle devient rapidement toxique, en fait, très, très envahissante. C'est ce que plusieurs de ses amis témoignaient, c'est que dès que tu devenais ami avec elle ou tu te mettais à lui parler, elle bombardait de messages continuellement. Et c'est vrai que ça peut devenir harassant. Et elle avait toujours le même comportement, donc tout le monde s'éloignait d'elle. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui cherchait constamment à obtenir l'attention. Si vous écoutez le documentaire « I Love You, Now Die » là, de HBO, là, vous allez voir là, justement plusieurs témoignages là, de ses amis. Puis c'est vraiment, je trouve ça extrêmement malaisant là, de voir ça. Donc, on comprend qu'elle a fait tout ça que pour avoir de l'attention. Là. C'est très, très triste. Également, plusieurs échanges de messages, textes troublants ont été montrés devant la cour. Par exemple, le 5 juillet 2014, elle lui écrivait « Tu dois faire quelque chose rapidement. » Quelque chose qui mettra fin à tout ça sans que tu ne te soucies de la douleur. Tu m'as dit que tu voulais tout ça tellement fort, mais je savais que tu n'allais pas essayer à fond. Je me sens tellement idiote. Tu as menti à propos de tout ça. Tu m'as dit que tu allais le faire. Je pensais que tu voulais vraiment mourir, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Je me sens trahi et stupide, a-t-elle écrit. Encore une fois, un beau commentaire... machiavélique, là,
oui, vraiment.
Démoniaque, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Elle lui dit qu'elle se sent stupide et trahie par sa non-action de s'être suicidée.
Oui, elle se victimise là-dedans par, comme tu dis, par sa non-action. Donc,
ouais,
c'est clair que pour les enquêteurs, dans un cadre de procès, c'est quelque chose qui pèse fort là, d'une certaine manière, là, des textos comme ça. Puis on va y revenir tantôt. Là, j'ai comme plein d'idées qui me trottent dans la tête que je comprends pas au niveau de sa personnalité.
Oui, c'est assez particulier. Et à la barre, la couronne a fait venir Michael Bates, là, qui est un enquêteur qui a travaillé sur le dossier là, de Michel, pour lire plusieurs autres messages qui sont assez dérangeants. Il nous en sort un, entre autres... Et on y découvre que Conrad tente d'expliquer à Michel qu'il est en colère à cause de son passé et de ses regrets. Là. Comme on vit tous un peu ça, là, on a tous des regrets. Et elle lui répond, au lieu de l'apaiser, elle lui répond « Suicide-toi ». Puis lui, il lui répond « Tu crois que je dois le faire ?» Donc, encore là, encore dans l'échange et dans la dynamique pour le pousser à faire l'acte.
La défense, de son côté, brosse un tableau différent, affirmant que Conrad était suicidaire dès le départ et sur le point de se suicider pendant des années. Donc, que ce n'est pas de la faute à Michel s'il s'est enlevé la vie, c'est quelque chose qu'il avait en lui. La couronne pense aussi qu'il a... La défense pense aussi qu'il avait entièrement la capacité de ne pas aller de l'avant. La défense compte également sur le témoignage du psychiatre Peter Bregan, qui décrit en détail, à la demande de la défense, les médicaments que prenait Michelle Carter, qui était traitée là, dès l'âge de 14 ans pour dépression. Elle a ainsi pris le célèbre antidépresseur Prozac pendant 8 mois, avant que la dose ne soit réduite, puis le traitement a été arrêté et recommencé une nouvelle fois. Selon ce médecin, le traitement l'aurait involontairement intoxiqué, causant chez la jeune fille des délires mégalomanes qui l'incitaient à penser qu'elle seule pouvait mener Conrad vers la mort et s'occuper ensuite de sa famille. Mmh. C'est vrai que c'est quand même un peu mégalomane comme pensée.
Oui.
Mais le juge Moniz a estimé que ce témoignage ne suffisait pas à oblitérer l'intentionnalité du comportement de Michelle Carter.
Oui, c'est ça.
Donc, juste avec ça, tu peux pas, rayer de la carte les 60 000 textos et tous les messages qui ont contribué à le pousser vers l'acte.
Ouais, oui,
puis
exact.
On le voit même à sa défense, Conrad, on le voit même dans ses textos qu'il est jamais sûr, qu'il dit
non, exact.
Ah, tu penses que je devrais le faire, tu penses que c'est le moment et tout ça. Donc, il n'a pas l'air d'un gars qui est très, décidé à 100%
exactement.
De le faire. Puis Michelle, de son côté, mettons qu'elle ne tente pas vraiment de l'aider, même au contraire. Même la procureure a rappelé que lorsque Michelle envoyait ses messages à son copain, elle avait bien conscience de ce qu'elle faisait. Elle a notamment lu ce texto adressé à une amie après la mort de Conrad, et le texto dit « S'ils lisent mes messages, je suis foutu. Sa famille va me haïr et je vais aller en prison. » Donc, elle était bien consciente de ça. Le 13 juin 2017, les deux parties concluent leur plaidoirie et l'affaire est désormais entre les mains du juge Moniz. Le suspense était d'autant plus grand que l'État du Massachusetts n'a pas, contrairement à d'autres États américains, de loi pénalisant l'encouragement au suicide. Elle encourt donc jusqu'à 20 ans de prison en cas de condamnation.
Oui, c'est assez fou, hein, parce que au départ, comme tu le disais, elle avait 17 ans, mais à cause de la gravité du geste, elle n'a pas été traitée au tribunal pour juvénile pour enfants. Automatiquement, ils l'ont transférée pour adulte à cause de ça. Puis même, ce procès-là va devenir une sorte de jurisprudence là, également.
Ah, j'imagine. Finalement, le 16 juin 2017, Michelle Carter est reconnue coupable d'homicide involontaire. La peine est fixée au 3 août. La décision du juge a relancé le débat sur la responsabilité dans le suicide d'autrui. Ce que le juge disait, c'est qu'il reflète la volonté de la justice d'étendre la responsabilité juridique en cas de suicide d'une autre personne, alors que par définition, l'acte de suicide est le résultat d'un choix complètement indépendant. On comprend que effectivement l'acte de suicide, c'est un choix qui est indépendant, qui est volontaire, mais à quelque part, la manipulation existe. Hein? Puis si on le voit dans le cas d'agression sexuelle, de chantage, de demande de rançon qu'on voit sur les réseaux sociaux de la part de prédateurs sexuels, ben c'est valable aussi pour les suicides. Donc, tu sais, on peut inciter quelqu'un à nous envoyer des images compromettantes dans le but de la faire chanter, ben c'est la même chose s'appliquer à envoyer des messages à quelqu'un pour le pousser à mettre fin à ses jours. Donc, je comprends le jugement du juge là, qui a un peu appuyé sur le bouton là, puis qui a rectifié les choses, comme quoi c'est pas vrai que, un suicide, c'est un acte volontaire, mais à quelque part, c'est possible de se faire manipuler dans ce sens-là.
Oui, même si la personne avait des intentions de se suicider depuis plusieurs années, là, on dirait que c'est justement ça... Ça fonctionne pas, mais vous allez voir, le jugement va vous étonner d'une certaine façon. On arrive maintenant à la condamnation. Michelle Carter, 20 ans, là, elle est rendue à 20 ans au moment des faits, est reconnue coupable d'homicide involontaire. Elle écope de 2 ans et demi de prison, dont 15 mois ferme. Elle effectuera le reste de sa peine en liberté conditionnelle. Selon le juge, son comportement était vicieux et dangereux. Il a causé la mort de M. Conrad Roy. Elle n'a pas été emprisonnée immédiatement car le juge a accueilli favorablement une requête de la défense en vertu de laquelle elle pourrait rester en liberté en attendant le long processus d'appel dans lequel il l'a amenée. Là. Ça a été wise de sa part au niveau de l'avocat, mais je me mettais une des seules places où j'avais un peu d'empathie pour Michel. Elle a dû trouver ça long, elle aussi, chez eux. Là, tu ne peux plus sortir de chez toi. Tu es médiatisé. C'était déjà commencé à être médiatisé aux États-Unis.
Oui, énormément.
Ça, je me demande comment elle a dû vivre dans une sorte de prison, en fait, selon moi, là, même si elle avait une liberté à ce moment-là.
Oui, mais j'imagine qu'il ne la considérait pas comme dangereuse sur le coup. Mais évidemment, elle n'avait pas le droit là, de consulter Internet, d'être sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis c'est vrai, le point que tu amènes, Seb, à ce moment-là, l'histoire est devenue extrêmement populaire. Hein.
Ouais.
Tous les médias américains en ont parlé, des médias comme le Daily News, ou tu sais, des médias comme ça qui s'accordent un peu aux faits divers puis aux trucs sensationnalistes en ont vraiment parlé. Beaucoup, puis c'est devenu une grosse histoire là, qui a vraiment secoué les États-Unis. Puis comme tu dis, il y a eu un documentaire de fait par la suite. C'est vraiment une histoire qui a fait boule de neige. Donc, Michelle Carter, son nom était sur toutes les lèvres. En plus, elle a un nom quand même commun.
Oui.
Qui est vrai, facile de se rappeler.
C'est vrai.
Donc, il y a eu sans doute d'autres Michelle Carter qui ont été victimes un peu là, de cette intimidation-là. Mais bon, on va pas trop pleurer sa douleur.
Non, exactement. Mais il faut savoir que ce ne sont pas tant les nombreux textos dans lesquels Michelle a encouragé Conrad, aux tendances suicidaires avérées, là, à passer à l'acte, là, qui semble avoir convaincu le juge, mais plutôt un coup de téléphone entre les deux adolescents. Vous savez, les deux derniers appels en soirée qu'on vous a parlé tout à l'heure, là, de 40 minutes. Là. Conrad avait déjà commencé à passer à l'acte en remplissant son camion de monoxyde de carbone, a souligné le juge durant l'appel. Alors que l'air dans le camion devient irrespirable, le jeune homme en sort et les deux jeunes se parlent longuement au téléphone. Et elle lui dit « Retourne dedans », ce qu'il fera tout en restant au téléphone avec elle. Et là, elle l'entend commencer à tousser, à se sentir mal, mais elle ne préviendra personne, ni la police, ni sa famille. Elle ne lui a pas non plus dit de sortir de la camionnette, a poursuivi le juge, qui a estimé que c'est ce comportement vicieux et dangereux qui avait causé la mort de Conrad. Ce qui est vrai, là.
Ouf, c'est juste ça, c'est dur à entendre. T'sais, imagine au procès d'entendre ça pour la famille ou...
L'enfer.
Ah oui, ça, c'est fou.
C'est l'enfer. Justement, dans le documentaire d'HBO, tout est filmé là, aux États-Unis, puis tu la vois, là, sa mère, son père, c'est incro. Ça fait mal. Puis tu as les parents de Michel qui sont très, très reclus dans le coin, toutes seules. Toutes seules et tout ça. Là. On n'en parle pas beaucoup là, dans le cas d'aujourd'hui, mais elle disait que, je fais une petite parenthèse, là, que Michel, elle mentionne qu'elle n'a jamais été beaucoup aimée par ses parents. Non plus. Et que tout ça a sûrement contribué également à tout ce besoin ultime d'attention. Ouais.
Puis c'est comme si elle avait une dernière chance de le sauver.
Oui.
Tu sais, avec tous ces textos où elle l'incitait à le faire, là, il est dans le camion, il est en train de le faire. Elle aurait la chance là, de dire « OK, là, c'est fini ce trip-là. Là. Conrad sort de la voiture. » On arrête tout ce cirque, là, on le dit à nos parents, on reste en vie. Là, mais non, au contraire, elle insiste. Puis effectivement, c'est il n'y a pas meilleure preuve. En fait, là, le juge a bien fait de pointer précisément cet événement-là parce que c'est sans doute le plus éloquent puis le plus troublant dans l'affaire.
Ah oui, absolument. Puis, il faut rappeler que l'État du Massachusetts n'a pas de loi qui pénalise, là, comme on vous dit, l'encouragement au suicide, là, contrairement à plusieurs autres États américains. Le verdict de culpabilité pourrait faire jurisprudence. Mais malgré tout ça, là, malgré ce jugement-là, il y a plusieurs experts qui estiment que le jugement est complètement en contradiction avec le premier amendement de la Constitution qui protège la liberté d'expression. C'était pas mal tout le temps ça l'argument de son avocat et d'autres petites subtilités. On dirait que je comprends là, la liberté d'expression, mais quand la liberté enfreint la liberté d'autrui, c'est pas, tu sais, c'est oui, plus c'est, de la liberté. Là,
c'est t'sais. Comme un droit constitutionnel ou un amendement de la Constitution américaine qui en viole un autre. Là.
Ouais, exact.
C'est vraiment, ça devait être la seule chose qu'il pouvait tenter de faire, en fait, comme avocat de la défense.
Oui, oui, absolument. Puis lui, souvent, il se targue qu'il ne veut pas de débat sur la morale, il veut d'un débat juridique. Lui, c'était vraiment ça, son cheval de bataille. Puis je me demande, les distordus en France, en Europe, avez-vous des cas comme ça? Puis est-ce que ce type de situation est condamnable? Est-ce que vous en avez eu? On serait intéressé à le savoir. Puis tu sais, je me demande si ce genre de cas-là arrive, par exemple en France, est-ce qu'on pourrait se défendre sous un peu les mêmes arguments que la couronne sur la liberté d'expression? On dirait que je ne sais pas si tous les pays... Parce que les Américains, ça, on a tous cette loi-là là, dans les pays civilisés, mais c'est vrai que les Américains sont encore plus à cheval hein, sur la Constitution, là, on dirait, là, plus que les autres pays. Donc, je me questionnais par rapport à ça. Suite à cette condamnation, plusieurs autres tentatives d'appel ont eu lieu pour tenter de faire tomber les charges contre elle, mais toujours sans succès.
Mais cet avocat-là pourrait presque être poursuivi pour utiliser les fonds publics indéfiniment comme ça.
Ah, t'as raison, là. Quand tu regardes la timeline des événements, là, c'est fou, là, le nombre de requêtes qu'il a fait. Là, je pense qu'il y en a une vingtaine facilement. Là.
Il voulait soit gagner du temps ou,
ouais, entre autres,
ou là, ouais. tenter un dernier recours. Là. C'était sa seule munition, je pense.
Oui, oui, exact.
En janvier 2020, juste un peu avant le confinement mondial lié à la COVID, Michel Carter a été libéré après avoir purgé seulement 11 mois de sa peine en raison d'un bon comportement. La libération de Michel intervient une semaine après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté son appel pour entendre l'affaire et annuler sa condamnation.
Imagine, il y avait encore une semaine avant d'être libéré, elle avait une réponse d'une autre appel.
Ah, mais il me semble que c'est fou, là, 11 mois de sa peine pour un crime comme ça.
Oui, j'ai lu parce que, dans le fond, au final, c'était 15 mois ferme. Et en prison aux États-Unis, quand tu te comportes bien, tu peux accumuler jusqu'à 10 jours de moins de peine par mois selon les tâches que tu fais. Fait que ça peut aller vite, en fait. Fait que tu sais, c'est parce qu'elle était une prisonnière exemplaire, elle travaillait à la cafétéria... Elle était polie. Donc, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a réussi, à maximiser ses 10 jours qu'elle pouvait accumuler pour diminuer sa peine. Ce qui a fait que ça l'a réduit de 4 mois, dans le fond. Là. 4 mois, c'est 120 jours. Donc, c'est cohérent avec ça. Là. Mais
c'est tellement peu.
Mais je suis d'accord avec toi. Là. Moi, j'aurais donné une peine bien plus sévère là, que ça. Je trouve que... Je le sais que c'est une des premières condamnations du genre, puis je pense que... Mais on dirait que moi, j'y aurais donné... Ben, je suis pas avocat, ça veut rien dire, mais je sais pas, un 5, 10 ans, 15 ans à ferme, là, je sais pas. Pour éviter que ça n'arrive plus non plus, il faut envoyer un message aussi, même si c'est pas commun, on s'entend
ben
comme
oui.
crime. Là. Mais bref.
Où est-elle aujourd'hui, cette Michelle Carter? Évidemment, Michelle a gardé son profil bas et elle a évité l'attention du public à sa sortie de prison. Selon ses conditions de libération, elle est en probation jusqu'en 2025. Donc, il est peu probable qu'elle ait quitté les États-Unis depuis. Là.
Ouais.
Une recherche sur Instagram aussi là, de son nom ne donne aucun résultat non plus, sans aucun autre compte, évidemment, lié à la jeune femme de 24 ans. Donc, elle a un peu disparu des réseaux sociaux. Il n'est pas impossible qu'elle ait changé de nom et d'apparence compte tenu de la nature très médiatisée de l'affaire qui a attiré l'attention des médias du monde entier. Ouais. Donc, ça conclut un peu la chronologie des événements, Seb. Écoute, c'est quand même assez troublant comme histoire. C'est très triste. Moi, je suis curieux de savoir, je suis curieux de demander à nos auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis aussi à nos auditeurs qui sont en droit. On le sait, hein, qu'on en a des auditeurs qui sont là-dedans. Wink, wink, Zofia.
Oui.
Mais quelle est votre opinion? On en a aussi des auditeurs qui sont dans le domaine du droit en Europe, tout ça. Je serais curieux d'avoir votre opinion là-dessus, sur la condamnation, sur le poids des SMS.
Ouais.
Est-ce qu'un texto peut être vraiment une arme en tant que telle? Parce que c'est un peu comme ça que c'est considéré, tu sais. Et justement, dans quelle mesure pensez-vous qu'elle a commis un crime? Ouais. C'est un sujet qui est tellement nouveau. mais qu'en même temps, fait des ravages, parce qu'il y en a d'autres histoires comme ça. Oui, on va, on va vous en parler d'une autre qui est assez troublante dans l'after show. Mais toi, Seb, qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là, là, malgré le fait qu'on s'entend pour dire que c'est énormément triste? Là.
Ah oui.
C'est non seulement triste pour Conrad, mais sa famille aussi, puis pour la famille pour de Michel aussi, Carter, oui, puis pour Michel aussi, c'est des ados qui étaient quand même jeunes, qui avaient toute la vie devant eux, qui auraient pu être pris en charge, être remis sur la bonne voie, qui auraient pu se sortir de la dépression et tout ça. Oui. Donc, moi, j'ai le cœur brisé pour les parents de ces deux famille, là.
Ah oui, c'est à se déchirer le cœur. Puis moi, il y a l'autre aspect, on en a un peu parlé, là, les médicaments en bas âge, tu sais, jusqu'à quel... Moi, j'ai l'impression que malgré que c'est pas le facteur aggravant, là, que ça peut pour vrai avoir un... Tu sais, est-ce que... Mais j'imagine qu'un peu comme le vaccin, là, les avantages sont plus forts que les inconvénients. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que les jeunes sont de plus en plus médicamentés pour ça. J'ose croire que sans ça, qu'est-ce qui se passerait aussi? Là, je ne sais pas, c'est que on en donne tellement. T'sais, est-ce que t'sais, quel impact ça va faire dans le futur et tout ça? Puis même, il parlait du Prozac, puis l'autre que Carter, que Michel et Conrad prennent, là, le cito... Les deux,
le cytopram.
Oui, c'est ça. Les deux le prenaient aussi. Tout ça, là, ça fait vraiment un genre de cocktail aussi. J'ai l'impression explosif au niveau émotif. Je ne mets pas ça, la faute là-dessus, là, mais je me questionne pour la société. Là, si c'est, moi, si ma fille, par exemple, là, elle souffrait de ça à 14 ans, de dépression, je ne sais pas. Je pense que je suivrais la médecine, mais je me questionnerais beaucoup, je ferais beaucoup de recherches. Ouais. On dirait que ça m'inquiéterait plus que ça, mais en tout cas, c'est difficile à expliquer aussi qu'est-ce qui t'amène à la dépression aussi. Là, on s'entend, les deux avaient des environnements familiaux pas si simples. Il a mal pris le divorce. De ce qu'on a compris en cours, c'est que son père l'a déjà un peu battu, son grand-père aussi. Même si ça a l'air de des bonnes personnes, puis il travaille avec eux au quotidien, ça l'a traumatisé. Elle qui n'a pas été aimée supposément par ses parents. T'sais, veux, veux pas.
Ça fait partie de ton bagage.
Oui, exactement. Et ça a des impacts. Là. Mais c'est ça. Moi, je suis quand même dépassé que quelqu'un peut se rendre jusque-là. T'sais, la survie humaine est basée sur l'empathie qu'on a pour les autres, hein, pour s'aider, se soutenir. Là, c'est comme si ça, c'était totalement évaporé. Il n'y a aucune empathie envers lui, sauf ce qu'elle voulait démontrer qu'elle allait peut-être paraître à travers les textos. C'est ça qui est drôle de sa conception qu'elle avait, la technologie, comment ça marchait. Les textos effacés, ils n'existent plus. Puis ceux qu'elle envoie, eux, ils restent là. C'est comme si c'était juste ça qui allait être le film final des autorités. Là. En tout cas. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Émile, de tout ça? Là,
Ben oui, mais t'as de...
Ouais, excuse-moi, le zuzuzuz. Toi, Émile, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Ben, en fait, t'as déjà dit beaucoup de choses que ouais, je pense. Je te dirais, je suis assez d'accord avec toi sur tout ça. Mais si on revient à l'aspect vraiment true crime de la chose, moi, je trouve ça assez particulier de voir ce qui se passait dans sa tête à Michelle Carter. Mm-hmm. C'est-à-dire que elle tente de se bâtir un mobile autour des textos en appelant la sœur de Conrad et tout ça, mais en même temps, c'est complètement contradictoire avec tous les autres textos qu'elle a envoyés. Donc, on dirait qu'il y a cette preuve-là qui est présente, les milliers de textos, en fait, qu'on peut récupérer autant du côté de Conrad que d'elle-même, si elle les efface de son côté, sont quand même à quelque part. Les textos sont enregistrés auprès de ton fournisseur cellulaire, de toute façon.
T'sais. Oui, oui, oui.
Donc, de ce côté-là, tu en laisses des traces numériques, mais pourquoi, après, elle veut en laisser volontairement, en appelant ici et là, en textant Conrad, tout ça? Mais c'est comme si elle oubliait tous les autres textos qu'elle avait envoyés avant, puis toutes les conversations qu'ils ont eues. Donc, c'est vraiment étrange. On dirait qu'à un certain moment, elle était tombée dans un genre de déni.
Oui, exact.
Comme on a pu voir dans le cas de Bianca Devins, ouais, dans le cas vrai, de ouais. Lindsay Souvanarat, mm-hmm. avec sa relation avec James Gamble, oui, qui ont planifié la tuerie d'Halifax. À un moment donné, on dirait qu'ils sont comme emportés dans cette espèce de d'émotion qui leur amène sans doute un rush d'adrénaline, là, de cultiver un crime, entre guillemets, ouais. tu sais. On dirait qu'elle ne voulait plus arrêter, puis elle a complètement perdu le sens de la réalité. Là.
Ah oui, complètement.
Donc, moi, c'est ce que je trouvais fascinant, c'est son intelligence de vouloir se trouver un alibi, d'une certaine façon, le match de baseball et tout ça, versus sa stupidité de laisser autant de traces que ça dans l'univers. Donc, là-dessus, de ce côté-là, ça me surprend que tout ça n'ait pas joué contre elle. Même la manière dont elle a façonné son alibi.
Oui.
Tout ça, ça démontre vraiment son côté machiavélique, puis un côté très lucide qu'elle avait. Là, mm-hmm. elle était en mesure d'organiser un événement de charité
Raison. Oui.
Donc, tu sais, elle avait vraiment une certaine intelligence, mais sur ce côté-là, elle a complètement... manqué son coup, mais en même temps, c'est ce qui a permis aux autorités de la faire condamner.
Oui, ben oui, exact.
Mais moi aussi, pour moi, la peine, je la trouve ridicule. Mais bon, on verra bien, parce qu'il y a d'autres histoires, entre autres, qui se sont retrouvées en cours, en lien aussi avec, l'influence machiavélique qu'on peut avoir et jusqu'à pousser quelqu'un à aller vers le suicide. On vous en parle d'ailleurs dans l'after show de cet épisode-là pour les abonnés Oui Monsieur sur Patreon. On va discuter entre autres du cas de In-Young Yu, en fait, qui est tout aussi troublant. On va en discuter brièvement, puis on va revenir aussi sur des mises à jour que les réseaux sociaux ont fait pour améliorer leur plateforme de ce côté-là. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, les distordus? Vous pouvez nous faire signe, vous pouvez nous en parler sur le groupe de discussion sur Facebook. On est là, évidemment. On est sur Twitter aussi, Distorsion Pod, Instagram, Distorsion Podcast. On est sur YouTube. On est un petit peu partout. On est au distorsionpodcast.com aussi. On vous rappelle d'ailleurs que Distorsion, c'est une création de moi-même et Sébastien Lévesque et que le montage est une réalisation d'André Beaupré, que la musique de cet épisode-ci est une gracieuseté de RB qu'on aime et que vous semblez aimer vous aussi. Et on ne pourrait pas quitter sans remercier nos chers membres Patreon.
Je commence avec Mélanie G, Stéphanie P, Les Petits Chefs,
shout out,
Edith F et Samantha L, beaucoup d'amour.
Aussi, un gros câlin à Magali B, Virginie G, Nicolas C, Caroline L, ainsi que Lexane.
Ouh, et je continue avec Mathieu P, Florence F, Philippe L, Julie N et Noémie Gagnon. Beaucoup d'amour encore.
On donne aussi un bon fist bump à Anne-Marie B, à Audrey Anne T, Maxime G, Vincent B, ainsi que Marika B.
Et je continue avec un gros high five à Pascal S, Kim G, Félix C, Pascal D et la mystérieuse Mag.
Merci à vous. Distorsion ne serait pas là sans vous, chers membres Patreon.
Oh non.
Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Si ça ne va pas comme tu veux, ou si tu as besoin d'aide pour toi ou pour un de tes proches, contacte le 1-866-APPEL-ELLE et ton appel sera automatiquement acheminé à la ressource de ta région.
On n'y reste pas avec ça.
Oh!